Mardi 15 mai 2012, bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30. Comme tout au long de la manif d'art, les émissions du mois de mai seront consacrées à des rediffusions d'entrevues qu'on a faites dans le cadre de l'émission La Manif en direct qui est présentée les samedis de 11h à 13h à l'espace 400e. Cette semaine, notre choix d'entrevue s'est porté sur Jean-Pierre Gauthier. Jean-Pierre Gauthier qui présente Hypoxia à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. On a rencontré aussi Diane Landry autour de son exposition Correspondance présentée au Musée de l'Amérique française. On a également discuté avec Manon Labrec au sujet de l'exposition Les Transgravitationnels qui était présentée à vue. Un peu plus tard dans l'émission, on aura également la revue de presse de Raymond Poirier qui, elle, n'est pas une rediffusion, mais qui est bien celle qu'il a fait cette semaine. Et puis, on discute aussi avec Simon Roy qui nous a fait une sélection audio. Bonjour, Simon.
Bonjour, Julie.
Ça va bien?
Ben oui, je plane encore de ma fin de semaine à la manif. On a eu des concerts de qualité, donc je suis encore sur un nuage.
Oui, tu es encore. C'est ça, tu étais là, toi, la soirée samedi dernier?
Oui, j'étais là jeudi, vendredi et samedi. Samedi, c'était encore une fois vraiment spécial. Toute une soirée, ça m'a inspiré ma sélection musicale pour aujourd'hui. J'ai été inspiré par Toshimaru Nakamura qui fait de la musique avec une table de mixage sans entrée, donc seulement avec le feedback que la table de mixage produit. J'ai trouvé un groupe qui vient de la République tchèque, la ville de Prague. C'est un duo qui s'appelle Radio Royal. C'est composé par Federcel. Lui, il joue de la table de mixage sans entrée, tape à cassette. Il y a de la guitare là-dedans, pédale à effet. Il est accompagné par Fares, qui, lui, est aux tables tournantes, puis lui aussi aux tapes à cassette. Donc, ils font leur musique, s'enregistrent à mesure avec leur tape à cassette et refont passer l'enregistrement par-dessus ce qu'ils jouent. Donc, ça donne quelque chose de vraiment intéressant.
Oui,
c'est donc, j'ai choisi 4 extraits de leur album RRDL01. C'est des ambiances un peu psychédéliques, un peu crotrock, un peu doom, donc un album assez mystérieux que j'ai vraiment apprécié. C'est publié sur l'étiquette Clinical Archive, une étiquette russe qui ont plus de 500 albums, donc musique dans tous les genres, art audio, musique expérimentale, toujours des trucs qui sortent des sentiers battus.
Alors, on en écoute tout de suite un extrait. Simon, mais je te remercie.
Ça fait plaisir.
Puis on t'écoute dimanche à 8h à Web Music.
Oui, comme toujours.
Voilà, donc on s'en va en pause audio, on écoute Moustache Monk sur les ondes de CKRL. On vient d'entendre une suggestion de Simon Roy que vous pouvez trouver sur le site l'aérospatiale.wordpress.com ainsi que l'émission en balado-diffusion et la revue de presse de Raymond Poirier. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Ben, ça va très bien toi?
Ben oui, ça va bien certainement.
Et notamment cette semaine, Julie, on parle des musées québécois qui commencent de plus en plus à s'intéresser à l'apport que peuvent leur donner les nouvelles technologies. Enfin, un article qui a été diffusé via la presse qui offre un espèce de petit survol autour d'une entrevue avec Michel Perron, qui est directeur général de la Société des musées québécois, et qui témoigne du fait que tranquillement, là, les expos multimédia sont de plus en plus monnaie courante, qu'on intègre aussi de plus en plus la 3D, des maquettes interactives, bref, qu'on utilise donc les nouvelles technologies pour bonifier l'expérience de visite. Ce que M. Perron dit, et j'ouvre les guillemets, c'est que les nouvelles technologies permettent de voir le contenu des musées de façon différente. Elles ouvrent la porte à des expériences originales. Et on cite notamment ici à Québec l'exemple de l'exposition sur Michel Tremblay au Musée de la Civilisation, un bel exemple de possibilités technologiques qu'on nous présente. En fait, on nous dit que le visiteur est en immersion visuelle et sonore dans l'univers de Tremblay, qu'il entre dans des sculptures vidéo, etc., etc. Et tout ça, nous dit M. Perron, ben, c'est au bénéfice des visiteurs. C'est eux qui en sortent gagnants parce qu'on vient bonifier peut-être la manière dont on présente le contenu, dont on offre l'apprentissage et la vulgarisation, si on peut dire, autour de ces parcours muséaux-là.
Est-ce que c'est le cas dans sensiblement tous les musées? Parce que je pense qu'il y en a qui sont peut-être un peu plus traditionnels ou conventionnels.
Tous ne sont pas égaux. On imagine qu'il y a encore des débats et des réflexions aussi. Parfois, peut-être, on prêche par excès. D'autres fois, on le fait peut-être un peu maladroitement. Mais donc, déjà, on le voit à la Société des musées québécois. On remarque cette tendance-là. Et si les gens veulent l'explorer, d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a une conférence ce jeudi, 17 mai à 19h, à la bibliothèque Gabriel-Leroy, où il y a un chercheur universitaire qui va s'intéresser, lui, justement, à ces nouvelles technologies et à leur intégration à l'intérieur des musées.
L'invitation est lancée.
Voilà. Deuxième nouvelle, et on reste dans les musées, mais cette fois-ci, on fait un saut vers l'Italie. En fait, un article de Libération, ça va pas bien. Le titre, d'ailleurs, donne le ton. Maxi-crise au Musée national d'art contemporain de Rome. Le maxi, en fait, c'est le nom court, le petit nom, le nom d'amour de ce musée-là, si on peut dire. Et donc, ce qui se passe, c'est que, essentiellement, le musée a été mis, la semaine dernière, sous tutelle par le ministère de la Culture. Donc, la situation qui est littéralement catastrophique pour ce musée, qui est quand même relativement récent. Donc, une construction qui remonte pas à si longtemps. On a construit en gros, on a construit en grand. Mais finalement, avec la crise qui frappe très fort du côté de l'Europe, eh ben, baisse drastique du financement et du mécénat, donc du financement privé, baisse aussi drastique du financement étatique. On est rendu à moins de 2 millions de dollars par année. Donc, ce qui fait que l'équipe du musée a littéralement jeté l'éponge la semaine dernière, a dit, regardez, dans ce contexte-là, il n'y a rien qu'on peut faire pour rétablir la situation. Donc, c'est devenu un musée sous tutelle. On espère évidemment que cette tutelle-là va permettre de rétablir les finances tout en perdant pas les acquis qui sont présents dans ce musée-là, qui est important pour l'Italie. Et parallèlement, ce qu'on craint évidemment, c'est la réputation aussi du musée qui est entachée par cet épisode.
Mais ouais, c'est vraiment une tristesse quand même. Le 2 millions de dollars de financement par année, là, ça va vraiment pas bien. Là.
Non, c'est assez tragique. Donc, à suivre, évidemment.
Oui, vraiment, à suivre avec une attention soutenue.
Eh bien, tout ne va pas mal dans le milieu de l'art.
Ah non?
Alors que des musées en faillite, eh bien, les tableaux se vendent à des budgets qui sont pratiquement le quintuple et le centuple du budget du musée d'art contemporain de Rome.
Ah, c'est triste.
C'est un peu... En fait, il y a une disparité assez étonnante à l'intérieur du musée. Je veux un commentaire éditorial parce que sporadiquement, dans la revue de presse, on parle de ventes et on parle de millions et de millions de dollars, des centaines de millions dans certains cas. Mais parallèlement, on voit qu'il y a toujours des problèmes de financement, que ce soit au niveau du mécénat ou autre, des institutions. Alors, c'est vraiment deux mondes qui gravitent côte à côte, mais qui ne se servent pas mutuellement. Du moins, de l'extérieur, c'est l'impression que j'en ai.
Ouais, effectivement.
Et côté record, ben, on parle cette semaine chez Christie's d'un Yves Klein qui a été vendu 36,4 millions, la
Yves
pièce.
Klein?
Yves Klein, oui, effectivement.
C'est un français.
Yves Klein, donc FC1, 36,4 millions de dollars. Également, un Rothko orange-rouge-jaune qui a été adjugé 86,8 millions de dollars US. C'est deux records, donc, pour les artistes. Pour
ouais.
Klein et pour Rothko, évidemment.
Qui n'en profite pas, hein?
Et parallèlement, on parle d'une triste nouvelle cette fois-ci, en fait, décès du peintre irlandais Louis Le Brocchi. Il est célèbre pour avoir peint les portraits de personnalités comme James Joyce, Samuel Beckett. Il est aussi célèbre pour avoir été l'un des grands, des premiers, des pionniers de la peinture en Irlande avec Francis Bacon. Bacon.
Bacon.
Bacon, merci, j'ose plus, là. Alors, en fait, Le Brocchi qui s'était déplacé dans les années 40 vers Londres, il est connu notamment notamment pour avoir manifesté d'abord un vif intérêt pour les avant-gardistes. Il a flirté également avec le cubisme et l'abstraction en peignant librement des Irlandais ordinaires. Et enfin, petite dernière, passage, simplement une petite mention, j'aime ça quand je tombe sur des documents vidéo qui sont pertinents et intéressants. On parle sur un des blogs du Monde d'Envader, qui est un street artist français, connu dans la plupart des grandes capitales. En fait, il redécore les murs des capitales avec des mosaïques assez caractéristiques depuis les années 90, inspirées de l'art 8-bit du jeu vidéo des personnages de Pac-Man, Invader aussi. Et donc, il y a des gens qui l'ont suivi pendant une nuit. On peut découvrir un peu son parcours, le lien va être demain sur le blog de l'aérospatial, l'aérospatial.wordpress.com.
Raymond Poirier, merci beaucoup.
Mais ça me fait plaisir.
On écoute ce vendredi, je crois que tu reçois...
Diana Bobsawin, qui sera de passage. On va parler plus du point de vue BD de son travail artistique.
Et voilà, donc vendredi dès 17h30. On s'en va en pause, au retour. Entrevue. On vient d'entendre un extrait de la pièce Homme ou encore OHM, c'est tiré de l'album RRDL01 de Radio Loyal, une suggestion de Simon Roy. D'ailleurs, vous pouvez trouver les suggestions, l'émission d'ailleurs en balado-diffusion sur le site l'aérospatial.wordpress.com, mais également, si vous oubliez cette adresse et que vous connaissez le site de CKRL, www.ckrl.qc.ca, ben allez-y, toutes les émissions sont maintenant en balado-diffusion, y compris celle-ci sous l'onglet l'aérospatial. Donc, comme je vous avais dit en début d'émission, on écoute une rediffusion de l'entrevue qu'on a faite samedi dernier avec Manon Labrecque sur les ondes de CKRL. On a beaucoup parlé, en fait, des soirées performances qui ont eu lieu jeudi, qui ont eu lieu hier. Et justement, Manon Labrecque y participait. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, vous?
Oui, ça va très bien. Satisfaite de la soirée d'hier?
Ah, ben oui, mais quand on est en état de performance, il y a une autre perception du temps, puis... j'essayais juste d'être dans le présent avec tout ce que j'étais hier, là. Alors, oui, je suis satisfaite, mais la route continue.
Bon, ben, parlant de route, d'ailleurs, ça me fait penser dans votre exposition à vue, vous présentez les antigravitationnels, donc une série de trois installations, projection orbitale et les traversées. C'est pour ça que ça m'a fait penser à la route. Ce sont des œuvres qui sont inédites, je crois, hein?
Oui.
Est-ce qu'elles ont été conçues pour la manif?
J'avais commencé le processus avant, puis Nicole Gingras, la commissaire, a passé à l'atelier, puis elle a vu ça, puis là, elle m'a demandé si je voulais les présenter. Alors, c'était un honneur pour moi d'être dans la sélection de Nicole pour la manif, oui.
Puis, ces trois installations, elles sont présentées dans un ordre. Il y a vraiment comme une gradation là à l'intérieur de ces installations-là.
Au départ, c'était comme pas voulu. C'était une question physique.
OK.
Surtout la pièce dans la petite salle, les traversées, à cause que j'utilisais le son généré par une petite flûte, là. Puis la vibration de la silhouette, j'avais choisi de la placer là parce que c'était une pièce plus intime.
OK.
Mais finalement, avec la réalité, j'étais contente, oui, du cheminement qu'on a si on arrive par la porte principale de vue. Puis on fait un petit chemin.
Puis la deuxième œuvre que vous présentez, si je me trompe pas, c'est Orbital.
Oui.
Où là, vous avez pris une photo de vous, vous avez découpé votre corps, puis on voit la partie du haut de votre corps qui est en mouvement.
Oui. Ça, pour la manif, j'ai eu l'occasion puis le plaisir de travailler avec Vue. J'avais une résidence. Alors là, j'ai pris un papier, puis Denis Thibault, lui qui fait les impressions, on a fait des essais. Je voulais arriver. Alors, sur le papier, ce qui est imprimé, c'est les jambes qui sont fixes. Puis moi, mon mécanisme, il consiste à imprimer le buste sur l'acétate, de le mettre en mouvement comme s'il était en orbite autour de son corps, puis qu'il voulait... Il voulait vraiment atterrir, hein? C'est ça. Ça fait que, avec l'aide de la résidence de Vue, ben là, poursuit mon idée finalement. Hein? C'était une belle opportunité pour moi.
Mais c'est intéressant qu'on regarde cette œuvre-là parce que moi, j'ai pas pu m'empêcher de voir un peu l'esprit qui erre.
Oui.
Tu sais, l'esprit ou la tête, on est toujours un peu à quelque part dans les airs, puis finalement, comme s'il y avait un refus de se poser réellement.
Ouais, ben un refus, mais toujours un désir. On passe, moi, c'était beaucoup l'état d'être centré. Puis, parce que je pars souvent aussi, j'ai vraiment l'impression d'être un ballon d'hélium qui tourne autour de mes jambes des fois. Mais le désir, hein, chaque être humain, je pense, on a le désir d'être incarné puis d'être bien enraciné. Mais pour moi, c'est la position du focus à un certain moment donné qui arrive vis-à-vis au-dessus parce que tout change, hein. Si, tout est en mouvement, finalement, nos humeurs, nos états. Alors là, faut prendre un petit peu de temps pour voir le torse arriver sur ses jambes,
ouais,
au bon focus, à la bonne dimension. Si on n'a pas le temps, on ne le verra pas. Ça, on va rester dans le flou.
C'est ça. Puis j'imagine qu'il ne reste pas là longtemps non plus. Tout de suite, ça
part. Non, il fait un passage. C'est un microseconde.
Ouais. Puis vous présentez aussi les traversées où on vous voit comme une abeille, en fait. C'est vraiment l'image qu'on a, là. Vous êtes comme, vous avez fait une petite reproduction de vous sur le mur qui est comme animée d'un léger mouvement,
oui,
qui parcourt finalement la planète, l'espace au complet. Comment est venue l'idée de ça?
Cette idée-là, c'est vraiment venu. J'ai eu une petite vision. Je me suis dit, ça serait quoi le voyage d'un âme qui quitte son corps? Alors là, j'avais toute une histoire, ça traversait la Terre, alors c'est pour ça qu'on voit toutes sortes de paysages. Les dimensions d'échelle aussi.
Oui, hein, il y a des jeux d'échelle. Ouais, des fois, vous êtes tout petite sur une fleur, puis après ça, vous survolez une grosse, grosse ville.
C'est ça, ou je suis plus grosse qu'un avion, ça fait que c'est ça, c'était comme une âme. Ben, moi, je me disais, apprendre toutes sortes d'expansion puis de rétrécissement. Tout ça pour monter de plus en plus haut, pour aller dans l'espace. Ben, c'est-à-dire que la petite silhouette part couchée par terre dans l'herbe. Mais on fait le tour de la Terre, on monte de plus en plus haut, jusqu'à la Lune, les étoiles, jusqu'à ce que les étoiles germent, puis qu'on se retrouve encore en dessous de la Terre.
Oui, dans les racines, c'est ça.
Et puis sur l'herbe. Ouais. Ça fait que ça a commencé par une histoire. Une petite vision que j'avais pour exprimer, puis là, j'ai construit la petite machine pour
le faire. Mais les photos, parce que ce sont des photos, est-ce que c'est des photos d'époque? Parce que des fois, on dirait qu'il y a un petit côté ancien ou un travail dans les couleurs qui donne l'impression d'image des années 60.
Ouais. Ce qui s'est passé, j'ai pris des photos de voyage, puis beaucoup sur Internet, puis j'ai tout reconstruit un montage. Mais pour qu'on puisse sentir que ça vient, qu'il soit de la même nature, j'ai appliqué un petit effet. Sauf que imprimé sur l'acétate, qu'on a fait aussi à vue cette grande impression-là, l'acétate, l'impression sur l'acétate donne une qualité aussi vieillot parce qu'on sent toutes les petites encavures, tu sais, de l'acétate, puis tout ça. Les poussières se collent aussi. Puis, étant donné, j'ai patenté une lampe, puis j'ai pris une lentille vidéo, le mécanisme aussi, puis de mouvement, d'impression et de projection crée la qualité de
ouais.
ça.
Ouais. Mais c'est fascinant, vous parlez justement, j'ai patenté oui. un mécanisme, il y a quelque chose de touchant, je trouve, dans vos mécanismes qui semblent, de prime abord, d'une grande simplicité, mais qui s'avère assez complexe au final.
Ouais. Ben, à force d'en faire, moi, je les trouve pas si compliqués que ça, mais ce que j'aime que ça reste simple pour que les objets soient sympathiques, puis pour que les gens aient envie de s'approcher, aient une relation. Le bois, c'est une matière pour moi qui est très chaleureuse, puis aussi, pour moi, c'est important parce que ça rappelle les jouets, les anciens jouets.
Ouais.
Alors, je pense pour ça... ça crée comme comment je peux dire, c'est une patente qui fonctionne, mais c'est pas un mécanisme sophistiqué qu'on reste loin avec cette simplicité là. Je pense que ça l'attire les gens à s'approcher.
Mais oui, parce qu'il y a quand même ces deux niveaux là dans l'exposition, c'est-à-dire qu'on regarde,
oui.
On regarde les projections, on voit qu'on on observe, puis après ça, oups, on peut aller regarder directement, puis de l'autre côté aussi, de voir à l'envers.
Oui, oui. Moi, j'aime pas ça, les cachettes. J'aime ça qu'on sache d'où ça vient, comment c'est fait. Moi, je suis très curieuse. Je vais à une exposition, je vais me mettre à quatre pattes pour voir comment c'est fait. Pour moi, c'est important de révéler ça aussi. Ça fait partie de l'œuvre. Oui.
Dans vos installations, ben sur deux, en fait, des installations, vous mettez de l'avant. Est-ce qu'il y a un côté peut-être un peu biographique à votre travail? Est-ce que ça ramène à vous, au final?
Avec le temps, moi, j'ai fait de la danse contemporaine, oui. Puis tout ça, puis j'ai souvent utilisé l'image dans mes vidéos. J'imagine que oui, mais en même temps, après plusieurs années, pour moi, mon corps, c'est une matière. Je serais un petit peu gênée d'utiliser l'image d'une autre personne. Ça fait que c'est comme devenu naturel pour moi, vu que j'aime le corps puis le mouvement. Oh, ben, je me photographie, je fais ci, je fais ça, puis après ça, je peux me défigurer, puis c'est pas grave. C'est dans le sens que, mais toucher à l'image d'une autre personne, j'aimerais pas ça. Puis aussi, le fait d'être dans l'action, ça fait partie de mon processus. Ah, si je photographie, là j'ai une idée. OK, là je continue. Ça fait que c'est tout un mouvement de création.
Ouais. D'ailleurs, vous dites vous aimez le corps, vous aimez le mouvement. Là, c'est intéressant parce que vous présentez votre corps, vous présentez le mouvement, mais c'est pas votre corps qui est physiquement en mouvement. C'est vraiment par le biais des mécanismes.
Oui. Avec les années, tu sais, ça fait peut-être une vingtaine d'années que je fais de la création. Je me suis mis devant la caméra, mais là, j'ai mis des émotions dans la dynamique des mécanismes. Tu sais, tout se fragmente, mais en même temps, pour reconstruire une sensation, un état.
De manière générale.
Oui.
On n'a pas beaucoup parlé de projection, mais c'est la première œuvre qui nous accueille, où là, vraiment, on a un personnage dont on présume que c'est vous aussi également, ou à tout le moins une image de vous, qui gravite justement autour d'une maison. Donc, j'imagine que c'est un peu dans l'idée d'Orbital aussi, cette idée de retourner à la maison, de se grounder.
Oui, par rapport à projection, c'est comme je voulais créer des genres un itinéraire, bon, mais une chute de maison. C'est à la recherche d'une maison. Mais la maison que j'ai fait, ça, c'est beaucoup lié à l'enfance aussi, mais la maison en tant que lieu extérieur et surtout intérieur. Puis, ouais, des lieux évanescents, c'est une quête, dans le fond, que je voulais exprimer. Oui.
En terminant, Manon Labrec, vous faites une classe de maître ce soir, ici à l'Espace 400e. C'est pas ce soir?
Non,
oups, ça va être... Aller. Non, c'est le 17 mai, mon Dieu, j'étais oui. convaincue, je vous voyais vous activer ici à l'Espace 400e, c'est vrai. Donc, le 17 mai, vous faites oui. une classe de maître.
Oui. Oui, là, je vais parler plus de la relation entre l'image fixe puis l'image en mouvement. Puis de mes ce que j'appelle mes mécanismes de réanimation.
Non, c'est bon. Ben Manon Labrec, merci beaucoup.
Oh, merci beaucoup.
Donc,
à
je
vous.
Répète l'invitation à aller voir les antigravitationnels, trois installations de Manon Labrec qui sont présentées à vue.
CKRL est maintenant en balado-diffusion. Écoutez ou réécoutez vos émissions favorites quand bon vous semble.
Un jour ici. Un jour.
Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et cliquez sur la section Programmation. La balado-diffusion vous permet d'écouter directement sur notre site Internet ou de télécharger les contenus désirés. En auto, à pied, en vélo ou en canot, CKRL est dorénavant plus près de vous.
La balade de l'amour.
Hey, je viens de terminer l'un des trois trajets du parcours artistique de la Manif d'Art 6. Wow! Avec la thématique axée sur les machines, c'est vraiment impressionnant ce qu'on y voit. En plus, demain, je vais assister à une conférence d'un artiste vraiment spectaculaire. La Biennale est du 3 mai au 3 juin et c'était à Québec. C'est un des plus grands événements en art actuel au Canada. Imagine, 80 artistes répartis dans 30 lieux. Tu devrais essayer le parcours et te renseigner sur les activités offertes. Le site manifdart.org contient tous les détails. Il y a même une application mobile. On y va ensemble demain?
C'est parti.
Ma boîte à cassettes.
La boîte à cassettes.
Ta boîte à cassettes.
Boîte à cassettes.
Boîte à cassettes.
Ma boîte à cassettes.
Ma boîte à cassettes.
C'est Robert Charlebois. J'aimerais bien entendre ta boîte à cassettes. Ça me changerait de la boîte à chansons.
Ma boîte à cassettes avec Jean-Philippe Deschênes, les mardis à 20h30.
Boîte à cassettes de Allman Brothers à Frank Zappa, c'est le rock de A à Z des années 60 à aujourd'hui. Concentré sur une seule fréquence, tous les mardis dès 22h avec François Thériault et Martin Anger.
Vous désirez devenir membre du 89.1? C'est simple, allez sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton « Devenir membre ». Pour seulement 25$, soutenez CKRL financièrement. Votre carte est valide un an, peu importe la date d'achat.
On met à l'Ampli de Québec à ne pas manquer. La relation artiste-gérant avec Hubert Mention. Interprétation vocale jazz avec Annie Poulain. Atelier pratique d'enregistrement avec Jocelyn Bouchard. Stratégie de financement privé avec Émilie Chabot. Et un atelier de slam avec Quinka. Devenez membre de l'Ampli et rendez-vous sur amplidequebec.qc.ca 418-977-9764. L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voir Québec et CKRL 89.1.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard.
26 ans de spectacle.
26 ans d'exposition.
26 ans à recycler.
26 ans de produits du Québec.
26 ans de bonne musique.
26 ans de party.
26 ans à s'impliquer dans le quartier.
26 ans d'entraide.
26 ans à changer le monde.
26 ans de Limoilou libre.
Souvent imité, mais le bal, c'est le bal. 1049 3e avenue Limoilou. Lebaldulezard.com.
Il est 18h précisément, on entame la deuxième et dernière demi-heure de l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30. Et comme je le disais en début d'émission, on écoute des rediffusions d'entrevues qui ont été faites samedi dernier dans le cadre de l'émission en direct de la manif, donc qui était diffusée à partir de l'espace 400e de 11h à 13h. Il y en aura une d'ailleurs cette semaine. En fait, il y en aura jusqu'au 2 juin, des émissions animées spéciales animées par moi, mais bien entendu avec la collaboration de mes chroniqueurs ici à l'émission, dont Simon Roy, Raymond Poirier, Anouk Desloges, Dominique Savoie et Fanny Hénon-Lévy. Donc tout de suite, on écoute une rediffusion de l'entrevue qu'on a faite avec Diane Landry. Ensuite, on s'en va en pause audio. On se déplace au Musée de l'Amérique française. On se déplace virtuellement, bien entendu, puisqu'on est toujours à l'espace 400e pour discuter avec Diane Landry. Bonjour.
Bonjour, Julie.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Au Musée de l'Amérique française, il y a l'exposition Correspondance qui présente quelques-unes de vos œuvres anciennes, une œuvre inédite également. Je crois qu'au départ, c'est Nicole Gingras vraiment qui vous a approché puis qui a fait une sélection de vos œuvres.
Oui, bon, je pense que le projet a commencé à cause d'une motoneige. Nicole est allée à la réserve du Musée de la Civilisation voir qu'il paraît qu'il y a plus de 200 000 objets incroyables et elle a vu la motoneige et elle, je pense que vraiment elle était impressionnée par l'objet qu'il est vraiment très impressionnant effectivement. Et lorsqu'elle a vu la motoneige, elle a pensé à certaines de mes œuvres et là, la correspondance a commencé. Voilà.
Ouais, d'où l'idée de correspondance, justement, dans le titre de l'exposition. Elle a choisi des œuvres, elle a choisi notamment une performance que vous avez réalisée en 2009 à l'ouverture du Mois Multi. Est-ce que c'est possible de nous la présenter?
L'imperméable se nomme, c'était lors de l'ouverture du Mois Multi, justement, en 2009, un projet que j'ai réalisé avec l'aide technique et humaine de Recto Verso lors d'une résidence. Donc, c'est une performance d'environ 25 minutes à peu près, où je suis accrochée à 10 pieds dans les airs et lorsque les gens sont entrés dans l'espace, on me voyait comme enrobée dans du plastique. Voilà, je suis accrochée comme ça dans les airs et tranquillement, je deviens comme un peu un balancier et mon costume se déploie, l'imperméable se déploie en premier, juste le bas, qui fait comme une espèce de ballon autour de mes jambes, qui ressemble en quelque sorte à une jupe. Et là, je vais me balancer, et puis après, c'est le ballon supérieur qui se déploie. Et donc, je suis vraiment emprisonnée dans cette matière plastique, et je respire par un tuba. Et là, à cause de la double forme, ben, c'est un peu l'image d'un sablier.
Oui.
Et là, je vais me balancer jusqu'à faire des tours complets. Et là, on avait réussi à garder le secret. donc, à un certain point, il y a 100 kilos de sel blanc qui va tomber sur le sablier d'une certaine manière, une inversion. Et là, je tourne dans tous les sens et le sel va partout. Et puis après, on me vide de mon air à l'aide d'un aspirateur et là je suis plutôt fanée.
Mais oui, mais ça a dû être assez physique là quand même. Là,
ouais,
c'est une grande endurance pour faire ça.
Ben
là.
Moi je l'ai jamais vue cette performance. Je la vois un peu comme elle est présentée en ce moment au Musée de l'Amérique française, c'est-à-dire par le biais de documentation, parce que moi tout le long des différentes étapes du développement du projet, ben on filmait pour que je puisse voir à quoi ça ressemblait. J'avais beau avoir l'idée.
Mais ouais.
Et d'ailleurs, j'ai déjà demandé à quelqu'un s'il voulait prendre ma place, mais j'ai pas encore trouvé personne. Mais bon, voilà, donc... Oui, il faut être un petit peu en forme.
Donc ça, c'est la première œuvre que l'on voit. Ensuite, si on se déplace tout de suite à gauche, c'est l'étreinte atroce.
Oui.
Là, ben, j'ai eu l'impression que c'était des luges, en fait, qui ont été comme transformées en grandes berceuses avec des images projetées.
Oui, oui, ce sont effectivement deux traîneaux pour enfants assez traditionnels québécois qui sont comme séparés et donc comme étirés pour devenir à mi-chemin entre la chaise haute ou la berceuse. Et en plus, c'est ça, le traîneau à la base, il est fixé sur des grands berceaux de bois et tout ça est animé par des pédaliers de vélo. Donc, un mécanisme très simple. Voilà.
Et on voit des projections de photos. Je crois que c'est des photos d'une fenêtre.
Oui, ce sont des photos de l'intérieur par la fenêtre qu'on regarde vers l'extérieur, deux lieux différents, un qui est plus l'hiver, un qui est plus l'été. Donc, et il y a des petites lumières qui vont jouer un petit peu dans le temps, qui vont varier. On aura des projections sur le mur, mais évidemment, ils vont bouger parce qu'ils sont accrochés à des berceuses.
Voilà. Mais il y a quelque chose d'intéressant parce que moi, je pouvais pas m'empêcher de faire le lien entre ces berceuses-là. Puis je voyais deux personnes assises, une à côté de l'autre,
ouais,
qui se bercent ensemble, parfois en harmonie, parfois en contraste ou en mm-hmm. contretemps. Est-ce que c'était une image qui vous était venue en
oui,
faisant l'œuvre?
Bon, je pense que bon, la berceuse, évidemment, c'est comme un peu, encore une fois, un pendule quelque part, hein, une horloge d'une certaine manière. Et évidemment, on pense souvent aux personnes âgées qui se berce
oui.
près de la fenêtre, mais en même temps, ce sont des traîneaux d'enfants. C'est comme des contradictions mélangées ensemble. Voilà. Oui.
Qu'est-ce que j'allais dire?
Ben, j'allais dire aussi que ça nous parle aussi, évidemment, il y a une autre contradiction, des traîneaux dans pour l'hiver et pédalier de vélo, mais maintenant on fait du vélo l'hiver, c'est formidable, mais c'est un peu aussi des moments liés à l'activité physique quelque part et aux saisons.
Et vous parlez de saisons, d'hiver, mais le lien se fait tout à fait logiquement aussi avec la table neige.
Oui, oui. Un projet que j'ai créé avant, en 1996, c'est toujours comme l'étreinte atroce, ça faisait quand même plus de 10 ans que je l'avais sorti. C'est toujours un peu, on se demande parfois, bon, est-ce que, elle a été créée en 97, à l'époque elle avait circulé quand même un peu. On se demande, est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui de sortir cette œuvre-là et la mettre justement avec des œuvres plus récentes. Et puis, on voit bien que c'est le même artiste avec les mêmes obsessions ou idées. Puis, ben, souvent, je dis, ben, j'ai l'impression que je fais toujours le même projet. Mais alors, j'ai fait OK, c'est quand même pas assumé.
Ben, je pense, j'imagine aussi l'idée de la démarche, les
oui,
idées,
oui,
mais
oui.
ça s'incarne quand même de manière
c'est
très
ça.
Différente.
Oui, oui.
Je pense qu'à la base, pour la table neige, c'est encore là, c'est très, très inspiré de l'hiver, là, parce que vous avez mis comme des chemises, des blouses de femmes mm-hmm. que vous avez comme glacées dans
oui.
du plastique.
Oui, oui, une technique pas trop orthodoxe. Parce que j'ai réalisé avant ce projet-là un autre projet avec de l'acrylique, mais dans la masse. Et pour ce faire, je travaillais dans une industrie en Beauce et ben on les connaît, les Beaucerons sont des super patenteux. Et le monsieur était très enthousiaste à l'autre projet que j'avais fait et parce que c'était pas hey, je fais pas ça d'habitude, puis il était très excité par le défi et il m'a tout montré comment ça se passait. J'ai visité son usine et puis en comprenant un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire, j'ai dit, après ce projet-là, j'ai une autre idée de projet. Puis on a fait des tests et j'étais tout de suite ravie. J'ai dit, c'est exactement ce que je souhaite là. Et là, j'ai créé la table neige avec ce procédé-là.
Avec la table neige, on sent vraiment dans un univers féminin, hein, de base.
Oui.
C'est des blouses de femmes qui
oui.
composent une table qui sont
oui.
aussi l'univers
oui, ben,
féminin par excellence.
Oui, ben je travaille beaucoup à partir d'objets existants que j'essaie de pas trop transformer, qu'on reconnaît les objets dès notre première rencontre, mais évidemment, ces objets-là deviennent autre chose qui, j'espère, surprend un peu ou nous amène à les voir autrement, parce qu'il y a plein de choses autour de nous et puis qui peuvent paraître ordinaires, qui le sont peut-être, mais qui peuvent devenir extraordinaires. C'est un peu le défi que je me donne.
Ou de mettre de la poésie carrément dans le quotidien, nous faire voir
mm-hmm.
la poésie du quotidien aussi.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais.
Je pense qu'à la base, la table neige, il y a de votre expérience vécue, hein,
oui,
dans le quartier.
Oui, c'est ça. Oui, bon, ayant un atelier dans Saint-Roch, à ce moment-là, je venais d'avoir, c'est ça, un nouvel espace et j'étais en pleine ligne où les prostituées sont, je les voyais tous les jours. Et c'est très dur à voir. Et la première hiver où je les ai vues travailler, je fus très impressionnée de voir premièrement comme elle travaillait beaucoup et de voir comment elle avait froid et toutes ces stratégies-là, ça m'a beaucoup troublée. Et c'est un peu un hommage pour elle, toutes ces femmes que j'ai vues, que je reconnaissais, et qui sont toujours... Là, j'ai changé d'atelier, je les vois plus, mais je sais bien qu'elles travaillent toujours. Et c'est très...
Peut-être même les mêmes encore, sur les mêmes coins de rue.
Oui, c'est... Mais bon...
Un côté touchant à tout ça.
Oui, c'est ça. Donc, tous ces chemises, en fait, je les ai choisies parce que, comme je disais, des chemises pour les pauvres, je les ai cherchées à l'Armée du Salut parce que ce sont ces chemises-là qu'elles vont porter et je les voulais pas neuves, je les voulais donc déjà portées, usagées et donc, tout ce qu'elles vont faire pour rendre ces chemises-là belles, attirantes, dans leur pauvreté, c'est très impressionnant.
Et il nous reste un petit peu de temps. J'ai envie qu'on garde peut-être la surprise sur épuisement, parce que vous aimez quand même laisser les gens découvrir cette œuvre-là. On a vu des photos, on en a entendu parler, mais j'ai envie qu'on garde la surprise, sauf qu'il y a un objet que vous aussi, vous avez choisi dans la réserve muséale. C'est un baromètre.
Oui.
Vous pouvez parler de l'intérêt de cet objet-là, parce que je pense que ça résume un peu votre travail.
Oui, bon, c'est sûr que lorsque j'ai eu l'invitation pour le musée d'Amérique française, j'ai dit, je veux le voir, moi, cette motoneige-là, 1930, donc qui passe très bien à travers le temps. Donc, j'ai vu plein d'objets et à un moment donné, on était dans la section plus des objets scientifiques et j'ai vu ce baromètre. Alors là, je sais pas. Faut dire que je suis très intéressée par la météorologie, peut-être c'est pour ça, mais comme objet sculptural, je le trouvais magnifique et on ne peut pas le voir à cause qu'il est dans une vitrine et on est obligé de le présenter comme ça, mais lorsqu'il est à l'air libre, il bouge tout le temps comme un pendule et sans moteur, sans rien. Donc juste et là, j'ai fait mais c'est incroyable. Je pense que c'est cette attirance-là et j'aimais cette évocation-là, évidemment, du pendule ou du métronome, parce que quand il bouge, c'est ce que ça ressemble. Mais en même temps, il nous parle du temps qui fait qu'il va faire. En fait, il nous parle quasiment du futur, cet objet ancien. Alors, je trouvais qu'il était vraiment super magnifique.
Eh bien, Diane Landry, merci beaucoup. Correspondance est présentée au Musée de la Rémérique française. C'était un extrait de la pièce High Voltage, une suggestion de Simon Roy sur les ondes de CKRL. Fallait d'ailleurs sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Également, si vous voulez, pourquoi pas, vous pouvez venir nous aimer sur Facebook et vous tenir au courant de manière un peu plus quotidienne et sans grand effort. Donc, on retourne en entrevue. On écoute l'entrevue que j'ai réalisée avec Jean-Pierre Gauthier sur les ondes de CKRL. Parmi les gens qui sont avec nous, il y a Jean-Pierre Gauthier. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Ah oui, très bien.
Hey, on a la chance aujourd'hui d'avoir tous les artistes qui étaient en performance hier ou ceux qui sont en performance ce soir. Ça s'est bien passé hier soir?
Pas mal, oui. J'ai une belle soirée, très, très spécial, j'ai trouvé, avec ces gens-là. J'étais très surpris du travail de Manon Labrec. J'étais vraiment agréablement surpris de ça. C'est vraiment un beau travail.
Ça devait être agréable aussi de pouvoir travailler comme improvisé aussi avec d'autres, puis
Oui, j'ai trouvé ça une belle soirée. Très contrasté et vraiment bien calibré aussi.
Calibré, rythmé également. Oui. Vous présentez en ce moment à la Galerie des arts visuels votre installation Hypoxia. Pouvez-vous nous la présenter de manière générale?
Hypoxia, c'est un projet qui fait suite à une série d'installations qui fonctionnaient avec de l'air. C'était un peu une quête que j'ai eue à partir d'un enregistrement que j'ai fait d'une ventilation en résidence. À un moment donné, j'avais rien à faire. J'entendais ce drôle de son dans une ventilation. Je me suis mis à l'enregistrer avec des microphones. Et les microphones sont mis à émettre des sons que j'avais pas entendus à l'oreille. C'était un peu comme des cris, des sons d'oiseaux presque. Puis là, j'ai gardé l'enregistrement. Je l'ai gardé comme juste un produit audio. Puis après ça, il faut vraiment que je fasse une installation à partir de cette idée-là. Là, je me suis mis dans l'idée de construire un énorme réseau tubulaire d'aspiration d'air pour reproduire ce phénomène-là. J'avais présenté à Québec là, 2 ans,
oui, je pense. Oui, c'est Turbulus qui était présenté au lieu.
C'était un gros dispositif pour pas encore obtenir le résultat que je cherchais complètement, mais c'était bon pareil, ça donnait un son qui était intéressant quand même.
Oui, ça impliquait aussi que le spectateur se promène.
Oui, c'était autre chose. On était vraiment dans un environnement. Puis, ben évidemment, moi, je suis un peu obsédé, fait que je me suis dit, j'ai pas encore le son que je voulais. Fait que là, il faut que j'en fasse un autre qui va. Et donc, ça en est suivi un autre qui s'appelait Thorax, qui était pas mal proche de l'idée que j'avais en tête, mais je me suis dit, non, je pense qu'il faut un peu pousser encore l'idée plus loin. Cette fois-là, je vais bouger les microphones. Et ça faisait toute la différence, de bouger le microphone par rapport à la buse d'air qui projetait de l'air sur le microphone. C'est très technique, mais en fait, ça réside que dans la technique, le son qui est produit là-dedans. C'est un petit détail, mais qui fait toute la différence du projet. En fait, dans Hypoxia, c'est une série de tubulures toutes tordues sur les murs, comme des arabesques, comme des volutes. Et à l'intérieur de ça, il y a un paquet de réseaux, de fils électriques, de tubes d'air qui viennent de pompes d'aquarium. Là, viennent les pompes d'aquarium qui sont filtrées par des espèces de membranes gonflables. Et ça génère des pulsations d'air sur le microphone. Et le microphone, en bougeant, module l'air autour du microphone et ça fait siffler le microphone. En fait, les deux ensemble font un sifflement.
Oui, ça crée vraiment
un peu quand on siffle entre ses dents ou entre ses lèvres, si on change la pression d'air, ça siffle plus, à un moment donné, ça siffle. Il y a un peu cette dynamique-là. Et tout ça, ça sonne un peu comme une espèce de zoo ou de jungle un peu bizarroïde où on entend des cris, des voix, des espèces de chants d'oiseaux étranges ou presque des fréquences électroniques ou des sortes d'évocations, en fait.
Parfois, hein, j'ai eu l'impression d'entendre des primates, là, à certains moments.
Oui, des singes, oui, presque, oui, comme des singes, oui.
Puis dans le fond, tout ça, c'est vraiment fait sur le coup, c'est activé par la présence du spectateur. Là, il n'y a absolument rien enregistré dans tout ça.
Tout à fait. Il n'y a pas de pré-enregistrement. Je fais jamais rien en installation qui est enregistré. C'est toujours fait par les dispositifs. Puis dans celui-là, c'est pareil. Puis oui, effectivement, quand les visiteurs arrivent devant chaque module, ils déclenchent un détecteur de mouvement qui, lui, part la machine. Et dans le deuxième temps, le détecteur de mouvement agit comme un autre déclencheur pour des petits événements, comme par exemple faire taper, il y a un petit moteur qui tape sur le tuyau, et là ça fait une vibration, ça crée une autre perturbation dans le système.
OK, ça veut dire que si on bouge devant, ça va réagir.
Encore. Ça réagit encore à notre
présence. OK, je n'étais pas certaine parce qu'à un moment donné, j'ai bougé et j'ai dit, ben voyons donc, je m'approche, j'ai l'impression que les sons changent. La personne à la galerie n'était pas certaine non plus de la réponse.
C'est ça. Ben moi, j'aime bien utiliser le visiteur, mais un peu comme un élément déclencheur sans qu'il s'en rende compte. Je me sers des visiteurs comme une source de hasard un peu.
Oui, c'est ça, on devient presque un instrument.
Allez, là, on est comme utilisé par la machine, oui, c'est ça.
Puis au total, vous présentez sept modules, en fait, comme vous les appelez?
Ouais. Oui, il y en a sept, oui, c'est ça. Oui.
Puis chacun a sa propre personnalité, finalement, donc on prend vraiment le temps de s'attarder à chaque...
Oui, parce que chaque forme est développée de manière aléatoire, parce que je travaille avec un assistant qui, lui, me coupe des tuyaux de n'importe quelle manière. Puis moi, je les coupe comme si c'était des objets trouvés, puis ça me fait des configurations très bizarroïdes. Je sais jamais où est-ce que ça va aboutir. Puis là, ça devient un jeu, tu sais, quelle longueur, comment ça va se déployer dans l'espace. Puis là, c'est une espèce de tension qui s'installe. Puis après, ben, je finis par donner une fonction à cette forme-là. Et puis là, j'installe tous mes dispositifs dedans. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'après coup, on a presque l'impression que la forme assez tordue pour accueillir l'objet.
Ouais.
On sait plus trop qu'est-ce qui était pensé avant ou après, quand il s'est terminé.
Oui, c'est ça. Il y a comme une notion de contrôle puis une notion de hasard ouais. aussi qui sont simultanées dans ça. Le travail.
Ben, ça garde la dimension de jeu aussi dans le processus. Parce que si je ferais tout au complet, je pense que ça serait trop contrôlé.
Ouais, puis il manquerait peut-être la spontanéité ou le côté organique, en fait, qui semble, même si on est dans des petits fils, dans des tubes, tout ça, pour moi, il y a vraiment un côté organique avec toutes les courbes. On a parfois l'impression du réseau sanguin ou du réseau nerveux. Je pense que la facture visuelle aussi, elle semble très importante pour vous.
Ben, effectivement, ça, il y a une analogie à l'organisme. C'est un peu comme un renversement parce que le tuyau électrique, c'est un conduit. Normalement, ce conduit-là, il sert à cacher des fils électriques. Et là, c'est tout à coup, si tout était renversé comme si on renverserait un bol en verre ou si on prendrait un corps puis on l'ouvrirait comme ça. Et c'est comme si tout était mis à jour. C'est un peu l'idée aussi. Une espèce d'analogie à l'organisme était assez importante dans
ben
ce
oui, puis je pense qu'il y a l'idée de la respiration aussi. L'installation précédente, c'était thorax. Là, c'est hypoxia. Je pense que hypoxia, c'est l'état où on manque d'air.
Manque d'oxygène, c'est ça. Quand un système végétal ou organique manque d'air, on appelle ça l'état d'hypoxia, hypo pour manque, ixia pour l'air.
Pour, c'est ça, comme un peu asphyxie.
Comme la formation d'algues dans les lacs, c'est un système comme ça.
Puis, là, on peut s'attarder à chacune des œuvres. Moi, quand j'y suis allée, on était deux personnes dans la galerie, donc j'ai eu l'occasion d'expérimenter seule les œuvres, mais aussi, à un moment donné, d'entendre les œuvres en relation les unes avec les autres. J'imagine, quand il y a beaucoup de gens, ça devient une espèce de concert assez incroyable.
Oui, ben ça, comme ils sont assez distantes l'une de l'autre, puis j'ai placé les détecteurs de mouvement pour les cibler assez serrés. Oui, quand on est tout seul, faut courir à travers la place pour toutes les partir là. Puis, à plusieurs, ça devient intéressant. Si c'est pas si le monde parle pas trop fort, ça crée un paysage qui se répond. Il y a des loins, des proches. Puis la salle est pas trop réverbérante. Je l'avais présentée à New York en mai passé. Puis c'était une salle beaucoup plus réverbérante. Puis c'était pas la même affaire du tout. Puis là, c'est la première fois que je la présente tout seul aussi. La dernière fois, elle était avec Thorax, puis ça créait un agencement intéressant, mais c'était pas la même chose. On avait l'impression que c'était une grosse installation.
Oui, c'est ça. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le fait que, bon, on peut se trouver face à chacune de ces œuvres-là, mais aussi de se trouver dans un environnement qui devient immersif là, par le son, par les formes et tout ça.
Oui.
Un autre élément visuel que j'ai observé, c'est l'éclairage sur les sculptures. Il y a tout le réseau d'ombre aussi qui vient ajouter une dimension, je trouve, à la limite un peu théâtrale à tout ça. C'est pensé, j'imagine?
Ben oui, justement, ça a commencé avec Turbulure. Je pense que pas juste Turbulure, d'autres projets aussi que j'ai commencé à travailler sur les ombres projetées au sol par les objets qui bougeaient. Et puis, c'est sûr, c'est toujours tentant de faire ça quand on fait de la sculpture. J'ai un grand artiste qui est juste à côté de moi qui fait ça, Diane, depuis longtemps, bien des années. Mais c'est ça. Et ça, c'est évidemment sur le mur comme ça, t'as pas le choix. Aussitôt que tu l'éclaires, t'as des ombres. C'est clair, là, à moins d'éclairer ça au néon. Mais c'est beau parce que ça dynamise le dessin, ça le complexifie. Ça complexifie le réseau dedans, ce que j'aime bien. Parce que dans le fond, j'aime pas ça que ça devienne trop épuré, trop design ou trop... J'aime bien que c'est un peu le bordel, qu'on comprenne pas dans le fond. Les gens, ils essaient de comprendre, ils comprendront jamais. S'il y a trop de complexité dans les fils. Puis, en fait, si on résume le système, il est très simple. C'est juste que je complexifie ça pour rien, mais ça crée un dessin, en fait.
C'est vrai qu'il y a ce côté
compliqué.
Il y a ce côté complexe-là, mais qui est accentué aussi par le fait que là, on est vraiment dans une échelle quand même très délicate. Là, moi, quand j'observais ça, je me disais, c'est un orfèvre là, de travailler les choses comme ça, de travailler le son par des aussi petits embranchements, puis la facture aussi, qui est très, très fine dans l'ensemble.
Ben, j'aime bien le petite affaire qui bouge, c'est comme la micro-cinétique. Parce qu'on est habitué de voir beaucoup des choses en robotique qui sont comme gros déploiement. Souvent, les gars s'embarquent là-dedans dans les moteurs avec la pneumatique. J'en ai déjà fait un petit peu à mener. Mais tu sais, c'est un peu macho souvent. j'aime pas cette approche-là, tu sais. J'ai pas envie de faire ça en art cinétique, tu sais. J'ai envie d'autres choses. Puis c'est ça, de développer ça. Moi, j'aime bien travailler avec les petits muscle wires, des tout petits fils très délicats, mais qui font aucun bruit. C'est merveilleux parce qu'en robotique, le moteur fait toujours du bruit.
Ouais.
Mais là, je travaille avec des micros hyper sensibles avec des mécanismes qui sont directement reliés sur le microphone, puis on n'entend pas le mécanisme. Ça, c'est le fun.
Puis en même temps, on est vraiment dans la subtilité, là, parce que si on regarde l'œuvre, chacune des œuvres de loin, on le voit pas nécessairement, ce mouvement-là. Donc, il faut vraiment prêter une attention, ouais. Observer, voir qu'est-ce qui provoque le
son. Moi, ça me prend mes petites lunettes de vieux pour être capable de le voir.
Ah oui?
Oui.
Bon. Mais Jean-Pierre Gauthier, merci beaucoup. Hypoxia est présentée à la Galerie des Arts Visuels. Alors, c'est déjà tout pour cette émission de l'aérospatiale. C'était Julie Gagné avec vous. Et je vous invite à venir soit nous écouter directement à l'espace 400e, ou à tout le moins de s'intoniser le 89.1 samedi à compter de 11h pour la manif en direct. Et sur ce, je vous laisse avec Folk d'Amérique et Émilie Guy en remplacement de Gilles Chaumel. Bonne soirée à tous.